Mémo audio, une mémoire sonore.
Sur la question du bruit, Abraham Moll, qui était un précurseur en sciences de l'information et de la communication au XXe siècle, il est décédé en 1992, donnait la définition suivante du bruit. Le bruit est un son que l'on ne veut pas entendre. Donc il renvoyait finalement la différence entre un bruit et un son à la question de la perception de chacun. En effet, si on ne désire pas entendre un son, un bruit de mobylette puissante qui passe dans la rue tout près de nous, c'est un bruit pour nous. Mais pour celui qui conduit et qui a mis donc sur le pot d'échappement ce qu'il faut pour que ça fasse du bruit, pour lui, c'est un son, parce que ça lui fait, il a envie d'avoir, d'écouter ça à l'oreille. Donc voilà la différence entre un bruit et un son, c'est une question de perception, donc voilà, de désirer ou pas entendre le son.
Thierry Bèche, vous êtes créateur sonore, compositeur électroacoustique, vous êtes aussi formateur dans ce domaine. Vous êtes cofondateur du GMEA, le Centre National de Création Musicale d'Albi, et vous avez été son directeur de 1981 à 2015, c'est bien ça?
Je le crains.
Vous êtes aussi animateur de l'association J'écoute sans répit, on reste toujours dans le son,
oui, voilà.
Coordinateur de l'association Passerelle Art Science Technologie en Occitanie. Vous travaillez sur l'écriture du son dans l'espace. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
C'est déjà pas mal.
Mais je crois qu'il y a autre chose.
Non, c'est pas mal, là, voilà. Vous avez résumé, ce qui est bien. Ouais. Voilà.
Vous êtes deux pour présenter
en
cette
plus,
installation.
Voyez, voilà.
Vous êtes avec Ioa Bedino. Alors en revanche, Ioa, je n'ai aucune information sur vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Quel est votre parcours? D'où vous venez? Sachant, comme on n'a pas l'image, que vous êtes sensiblement, même franchement, plus jeune que Thierry.
Ça fait marrant, ouais.
Oui. Je compose de la musique électroacoustique. Je fais aussi des prises de son audio naturaliste. Pour ce qui est de la formation et du passé, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Toulouse. Et puis après, un petit peu dans la classe d'électroacoustique au Conservatoire de Toulouse.
Et donc, tous deux, vous présentez une installation électroacoustique que j'ai pu apprécier au sein de l'église Saint-Amancé. J'imagine que ça n'a pas dû être une mince affaire.
Non, c'était pas une mince affaire, ouais. C'était un peu un challenge de composer avec la résonance du lieu, ouais.
J'ai cru comprendre que dans cette installation, on entend à la fois des bruits de la nature mixés, je dirais, avec des sons électroniques. Est-ce que vous pourriez dire plus précisément à quoi consiste ce travail?
Le travail qu'on essaie de mener avec Ioa, c'est l'ambiguïté d'écoute par rapport à la perception. Prendre les éléments qui caractérisent les comportements des sons naturels et puis donc travailler ensuite avec la synthèse analogique sur la reproduction de ses comportements et de s'en échapper, et donc de créer comme ça un aller-retour dans l'écoute entre le son réaliste et le son non réaliste, éventuellement de séjourner longtemps dans le son non réaliste, mais pour celui qui écoute, on peut croire parfois qu'on est dans la réalité. Voilà, on essaie donc de voyager dans cette écoute-là. Bon, on peut aller plus loin dans le débat d'idées, hein. C'est juste pour survoler dans un premier temps le propos.
De voyager et de faire voyager ?
Eh bien, on espère, parce que c'est passé. L'idée, c'est que enfin, l'objectif, hein, c'est pas un travail d'imitation. Enfin, en tout cas pour moi. L'objectif pour moi, c'est de faire voyager et de conscientiser les différentes capacités de l'écoute qu'on a tous. Mais comme on n'est pas souvent à l'épreuve, ni souvent en action, parce qu'on ne prend pas le temps de le conscientiser, d'y faire attention en fait. Donc, si on écoute un chant d'oiseau, c'est un chant d'oiseau. Si je ne connais rien aux oiseaux, je ne suis pas capable de dire autre chose, quoi. Je dis c'est un chant d'oiseau. Mais si je suis capable de nommer les oiseaux, je vais dire c'est un chant d'oiseau et c'est le piquet-pêche. Et en plus, le piquet-pêche de tel endroit, de telle région et à telle saison. Uniquement à l'oreille, je peux dire ça. C'est le spécialiste déjà qui parle. Si le musicien arrive, électroacoustique en particulier, qui a l'habitude de disséquer un peu tous les sons qui lui passent par l'oreille, lui il va dire oui d'accord, mais c'est aussi un son qui a une certaine itération, qui a une attaque molle, mouillée, un peu aqueuse, qui dure un certain temps, qui a un timbre avec un spectre très réduit, hein, qui va dans telle à telle fréquence, mais il y a une variabilité dans un profil dynamique parce qu'il joue plus ou moins fort, et du coup ça fait varier plus ou moins le timbre. Donc on va pouvoir caractériser le son. Pour lui-même, en dehors du sens que le son va donner, qui est l'oiseau ou qui est le piquet-pêche. Et donc du coup, le travail que l'on essaie de mener, c'est de jouer avec ces caractéristiques-là, du son en fait, puisque nous c'est ça notre travail. Mais effectivement, que le spécialiste à un moment donné va reconnaître quelque chose qui ressemble au piquet-pêche peut-être. Peut-être que le public qui écoute, lui, va reconnaître quelque chose de familier à son oreille par rapport à sa vie, sa propre expérience. Et puis nous, on écoute en fait les caractéristiques du son. Et donc, on essaie de faire voyager l'auditeur dans son imaginaire, mais tantôt en étant, se rendre compte qu'en le cerveau, il y a plein de cases finalement, quoi. Il y en a une qui va chercher la mémoire de notre expérience, l'autre la mémoire sensible, l'autre qui va dire qu'il va avoir rien, ça me fait peur, ah ben non, c'est marrant, ah ben non, c'est joyeux, ah ben ça me fait rêver, ah ça m'a endormi. Donc on va jouer comme ça, à faire balader. Alors que quand on est dans la musique, c'est pour ça que je fais attention au mot musique pour nommer ce qu'on fait, parce que la musique c'est un langage précis. Si je connais le code, je comprends.
Qui s'écrit ?
Et qui s'écrit ? Pas toutes. Il y a quand même beaucoup de musique orale, beaucoup de musique improvisée, et de la musique traditionnelle, etc. Donc, il n'y a pas que de la musique écrite. Mais il y a un code, il y a un langage. Donc si on ne le connaît pas, on va l'avoir au niveau de l'émotion. Mais on ne l'a pas au niveau de la technicité de l'écriture. On n'est pas dans la grammaire, on n'entend pas la grammaire. Donc, pour ça, je me méfie de ce mot musique, puisque nous, justement, l'idée, elle n'est pas d'aller dans un langage, elle est de jouer sur ces mouvements de perception chez l'auditeur, quoi. Et donc, d'avoir une forme de liberté, justement, par rapport à l'écriture. Et c'est pour ça que moi, je parle d'écriture, mais du son dans l'espace, sans me référer à une grammaire ou à une autre, même si, effectivement, dans l'histoire du son au XXe siècle, et grâce à Varèse et bien d'autres, on a intégré tous les sons dans la musique, et que donc les grammaires, elles ont un peu explosé, quoi. Certaines, en tout cas, ont explosé, et en particulier dans les musiques électroacoustiques, du coup, qui permettent d'avoir une liberté de travail, liberté de composition, une liberté d'imaginaire, et donc particulièrement de travailler dans le son, dans sa construction dans l'espace, en prenant l'espace comme un paramètre d'écriture à part entière du son. Et c'est très intéressant, c'est très important parce que je vais laisser parler Yoa sur la manière dont on a conçu l'installation justement auparavant, parce qu'on se rend compte que les caractéristiques de déplacement dans l'espace du son, battement d'aile par exemple, si vous reproduisez la caractéristique du battement d'aile sans avoir le son du battement d'aile, mais un autre son, mais qui reproduit la dynamique du battement d'aile, tout le monde pense au battement d'aile alors que c'est pas... Il n'y a rien qui vous permet de caractériser ça. Pourtant, on le reconnaît. Donc ça, mémoire hein, qu'on n'arrive pas à nommer, interne qu'on a, elle est super intéressante. Elle est spatiale. C'est un mouvement, c'est une structure. Et donc, on essaie de jouer avec ça. On essaie déjà de comprendre quelque chose à ça. Comment ça marche ? À toi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Après, j'ai l'impression qu'en premier lieu, il y a une sensibilité à... à tous les sons qu'on entend et une curiosité à essayer de les comprendre et de les disséquer.
Est-ce que vous pensez être dans la lignée, peut-être c'est pas le bon mot, mais de ce qu'on appelait la musique concrète?
Là, vous posez une question qui demande compliquée à répondre. Parce qu'il faudrait, pour définir ça, il faudrait savoir ce que c'est. Finalement. Enfin, qu'est-ce que c'est que la musique concrète? Là, si vous m'embarquez là-dedans, moi je veux bien, mais c'est un sujet à part entière. Mais pour vous le faire très court, hein, la musique concrète, c'est le mot que Schaeffer a employé à un moment donné pour définir, non pas sa pratique, mais sa recherche, on va dire. Pierre Henry a pratiqué, mais pas trop Schaeffer, donc par rapport à la recherche. Et il appelle ça musique concrète parce qu'en fait, comme c'était des sons, travailler sur des sons enregistrés, on sort du domaine de l'écriture musicale traditionnelle qui empêche de nommer clairement les paramètres parce que c'est trop compliqué. Quoi. Il y a des choses qui sont trop complexes, qu'on n'avait pas le vocabulaire. C'était tout le travail de Schaeffer de donner un vocabulaire pour décrire tous les sons. Et donc, pour pouvoir faire ça, il fallait, ce son, on ne peut pas l'imaginer dans l'oreille pour pouvoir l'utiliser. Il faut d'abord l'écouter. Il faut concrètement l'écouter à l'oreille pour le choisir. Un compositeur, il n'a pas besoin d'écouter. Beethoven était sourd, il n'écoute pas. Il peut composer sans entendre. C'est la musique concrète. Donc, il a appelé ça comme ça parce que concrètement, il fallait absolument passer par l'oreille pour pouvoir choisir un son qu'il appelait un objet sonore. Bon, pour lui, c'était très concret comme attitude. Et en organisant les sons concrets entre eux, il allait vers l'abstraction. Parce qu'il demandait à écouter quelque chose comme un collage surréaliste. Donc c'est dommage qu'elle ait du concret à l'abstrait. C'est pour ça qu'il appelait ça musique concrète. Alors que la musique écrite, c'est une musique abstraite au début. Elle est écrite, c'est symbolique, c'est des notes. Il n'y a pas de son. Alors c'est complètement abstrait. Ça devient concret quand on joue la partition. Donc c'était une démarche totalement inverse. Schaeffer part du concret pour aller à l'abstrait au niveau de la composition. Et la musique écrite, elle part de l'abstrait, du code écrit, pour aller vers la perception concrète. C'est pour ça qu'il appelait ça musique concrète. Donc aujourd'hui, en 2024, Schaeffer, c'est en 1948, le début, on a fait du chemin. C'est pour ça qu'on appelait ça musique électroacoustique. Du coup, je ne sais plus trop ce que ça veut dire musique concrète, puisque pour moi, tous les sons sont englobés dans toutes les musiques. Il n'y a pas une musique, il y a des musiques. Et donc pour moi, il y a d'abord l'univers sonore, dans lequel il y a plein de choses, de la radio, aux musiques les plus débridées, les plus sauvages, aux musiques les plus savantes, comme on dit, entre guillemets, parce que je déteste ce terme. Voilà, donc c'est rapidement dit. Donc je ne sais pas si on fait de la musique concrète,
On est obligé d'avoir l'électricité, on est obligé d'avoir des synthétiseurs, on a des ordinateurs, on a des haut-parleurs, et on se sert, on transforme de l'électricité en acoustique. Donc ça c'est juste, je crois. En disant ça, on décrit le dispositif, on n'écrit pas la musique. Mais c'est déjà pas mal.
Si j'ai bien compris votre démarche, l'installation que vous avez réalisée aujourd'hui dans l'église de Saint-Amancé, elle se fait par rapport à l'espace dans lequel vous intervenez. Si vous deviez faire cette installation ailleurs, le résultat ne serait pas identique.
Non, ça c'est sûr, parce que chaque acoustique de chaque lieu va influer sur le rendu final.
Comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
On s'est rencontrés à Albi après un concert que j'ai donné dans une salle qui s'appelle Le Frigo. C'est proche du GMEA. Et donc Thierry il est venu écouter. Puis on s'est rendu compte qu'en discutant on avait des atomes crochus. Et puis voilà, on a commencé à être potes comme ça.
Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ?
Non, c'est la seconde fois. La première fois, c'était en mai de cette année pour une compilation que j'ai proposée à Thierry de participer à une compilation autour de ce thème-là, d'ambiguïté entre des sons électroniques et des sons du vivant. Du coup, on avait déjà eu affaire à la musique ensemble par ce billet-là.
Il y a une édition de cassette, c'est le moment de le dire. Là.
Oui, cette compilation, on l'a micro-édité avec des amis, au format de la cassette, avec un objet sérigraphié. Voilà.
Alors, format cassette, de nos jours, c'est plus très usité, c'est un choix.
Oui, d'une part, ça revient, on peut en retrouver en neuf ou en occasion, toujours. Après, c'est un choix aussi esthétique, ouais. J'aime bien l'objet de la cassette, il permet de faire de l'édition papier. Après, c'est clair que le format, la bande magnétique, elle réduit quand même considérablement la dynamique et le spectre du son, quoi. Du coup, c'est un peu... C'est pas forcément le choix le plus qualitatif, on va dire, pour le son, mais voilà, c'est aussi parce que c'est facile à faire, on peut le faire nous-mêmes à la maison. Et
l'objet aussi,
ouais. Il permet de mettre pas mal de papier dedans, de faire des images, de mettre des textes qui expliquent. Voilà.
Et ce travail-là, on peut se le procurer ?
Oui, bien sûr. Du coup, là, on en a un stock dans l'installation. Et sinon, sur Internet aussi, sur le Bandcamp du label qui s'appelle Hiérophonie, on peut trouver la compilation et se la procurer assez facilement comme ça, ouais. Sinon, de la main à la main aussi, ça marche, ça permet ça aussi, la cassette. C'est des tout petits objets, on peut se les passer, se les échanger, la main à la main, ça rentre dans la poche.
Tout à fait.
Voilà.
C'est pas moi qui dirais le contraire. Avec toujours ce léger souffle résiduel un petit peu qui donne un son très particulier.
Ah oui, ça c'est... Ouais, c'est indéniable. On peut pas passer outre, ouais.
Quand on se voit contre les réverbes, quoi, c'est un peu pareil. Contre les réverbes d'église.
Réverbes naturelles.
Réverbes naturelles, oui. Enfin, architecturales, là, en l'occurrence, là.
Thierry Vèche, vous êtes aussi formateur.
Ben, j'ai fait beaucoup de formations dans ma carrière, qui est longue. Donc je continue encore à faire quelques cours. J'enseigne à l'université Jean Jaurès à Toulouse, dans le master en art et com, art et communication. Et puis aussi, je fais des cours aussi à l'ENSAV, École nationale supérieure audiovisuelle, à Castres, sur la licence d'infographie. Voilà, puis ben, là, je ne fais plus de stages. Hein. Je fais beaucoup de stages, là, mais... Je me suis calmé un peu là.
C'est pas fatigant tout ça.
C'est pas fatigant oui, tout ça. Voilà. Mais vous parliez tout à l'heure pour. Je reviens pas en arrière, je poursuis le débat d'idées là, de l'écart d'âge. Je trouve ça marrant moi aussi parce que j'ai quel âge t'as, tu vois.
28.
Là, il y a 28 ans et moi j'ai 70 ans. Donc comme quoi, vous voyez, comme une génération, oui d'accord, mais bon.
Ouais, après c'est
pas obligé quoi.
Pas dans la tête quoi.
C'est pas dans la tête quoi. Donc. Et donc effectivement l'alliage là aussi, la rencontre, parler de la rencontre là, hein, qui s'est fait effectivement sur la complémentarité d'approche là, de sensible aussi hein, du travail par rapport à ce lien entre l'écoute naturelle puis cette écoute artificielle, mais cette prolongation par l'électricité, par l'électronique de cette écoute naturelle. Et ça c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup sans se concerter, si on fait des choses et qu'on les met ensemble. Bon, peut-être pas des fois, pas tout, mais globalement, disons que ça fonctionne bien, sans qu'il y ait de règles du jeu, sans qu'il y ait de... Parce qu'il y a quelque chose qui a réuni quelque part, qui est quand même dans la manière d'écouter, quoi. Dans la façon d'écouter, dans la façon du coup, d'appréhender le phénomène sonore. Quoi. Et ça, c'est chouette, c'est intéressant. Et peut-être aussi que il peut vous expliquer, il y a aussi comment on a conçu l'installation. C'est assez marrant aussi.
Du coup, là, l'installation, où il y a un ordinateur qui diffuse le son sur 10 haut-parleurs. Et chaque son est tiré au sort, au hasard.
Chaque séquence.
Il y a des séquences en fait, qu'on a composées chacun de notre côté, avec des thématiques qu'on avait préétablies au préalable, qui sont catégorisées par famille, que par exemple... La famille des orages ou la famille des insectes, voilà, où on a essayé de reproduire des caractéristiques sonores de tel ou tel phénomène sonore. Donc il y a des familles comme ça qui sont tirées au sort. Et après, il y a chaque séquence qu'on a composée et diffusée sur une stéréo, sur l'autre, ou alors à des trajectoires écrites. Ça va passer dans l'espace, en transversal, ou ça va faire des va-et-vient. Ou alors ça va rester que sur deux enceintes ou que sur une seule. Et tout ça, c'est évolutif, c'est autogénératif. Donc, c'est-à-dire que nous, on connaît le contenu parce qu'on l'a composé. Après, toutes les combinaisons et les variables possibles sont...
Et par aléatoire.
Complètement, oui. C'est complètement aléatoire. Il y a un tirage au sort qui est aléatoire. Et que du coup, nous-mêmes, on est en train de... Une fois que tout le travail a été fait de composition et d'installation, on est au même titre que les gens qui viennent écouter, autant surpris de ce qui sort à un moment T. On découvre en même temps que le public ce qu'on entend. À peu près, quoi.
Ça va être génial.
Et oui, et personnellement, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse au-delà de tout ce qui a été raconté depuis tout à l'heure, c'est de essayer de retrouver cette attitude de l'écoute qu'on peut avoir en écoutant toutes sortes de phénomènes sonores dans la nature ou en ville ou enfin à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on découvre tout le temps des choses et on est curieux. Et c'est ça qu'on est, personnellement qui m'intéresse aussi de mettre en place dans ma musique. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une part d'aléatoire qui est contrôlée, certes, mais je vais toujours être surpris d'une certaine manière par ce qu'on entend.
Bon, c'est des séquences qui sont construites, des temporalités identiques pour que ça puisse tomber d'aplomb, tout ça. Et effectivement, la réverbération de l'église nous a posé pas mal de soucis, mais c'est intéressant, peut-être d'en parler 30 secondes, parce que...
Là, c'est un sacré défi, oui.
Parce qu'il faut arriver à caractériser, quoi. Parce qu'a priori, quand on y arrive, on dit c'est impossible, quoi. C'est pas possible de jouer là-dedans, quoi. Parce qu'il y a une réverbération qui est coupée vraiment en deux. Il y a vraiment une réverbération grave, vraiment grave. Et qui reste finalement au sol, au rez-de-chaussée, je dirais. Voilà. Puis il y a une réverbération au médium qui, elle, reste tournant haut, quoi, de l'église. Et donc, il y a quelque part entre les deux, il y a quelque chose qu'on peut arriver à négocier, quoi, peut-être, à condition de ne pas exciter le grave du sol ou le haut médium du haut. Donc, c'est un peu tout ça le pari dans lequel on a bagarré depuis deux jours, là, pour arriver à implanter, en fait, les haut-parleurs au bon endroit. Après, il y a des haut-parleurs de types différents, de typicités différentes, donc, voilà, qui nous permettent aussi de jouer un peu avec ça. Et donc, il y a aussi de travailler, du coup, sur le... au niveau des filtrages, au niveau des niveaux, donc il y a toute une combinaison entre le placement du haut-parleur, le filtrage et le niveau sonore, sans que ça nous coupe et la dynamique et le qualitatif des sons, quoi. Donc c'est une espèce de compromis d'écriture du son dans l'espace, du coup. Et là, non seulement on doit écrire dans l'espace, mais on doit aussi bagarrer avec l'espace architectural tel qu'il nous renvoie à l'acoustique du lieu. Donc c'est quand même un truc intéressant à faire, en fait. Et qui nous a amené du coup aussi à des choix et aussi à des par rapport au public aussi qu'on va voir, on va voir l'expérience que ça donne, qui va demander au public, je pense, un choix d'attitude d'écoute. Et si on rentre bruyant, comme le bazar, on n'entendra rien. Donc il y a une espèce d'une nécessité d'amener l'écoute à une certaine échelle, qui est finalement l'écoute aussi, hein, d'un bruit de fond naturel. Quand c'est calme autour de nous, ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est pas le cas maintenant.
Ce qui n'est pas le cas maintenant et qui permet, voilà, du coup, de conscientiser nos propres seuils d'écoute, quoi. Et d'aller chercher en nous aussi, à notre écoute intérieure, quoi.
Dans quelque chose qui n'est pas toujours conscient, d'ailleurs.
Non, qui n'est pas toujours conscient. C'est pour ça que ce travail-là aussi, je pense, enfin, j'espère, qu'il aide et qu'il participe pour le public, par l'expérience qu'il va vivre ou vit, de se poser deux, trois questions, quoi. Sur la manière d'écouter, quoi.
Mais voilà, moi, c'est ça aussi que je voulais revenir là aussi, c'est que pour moi, que ce soit de la musique ou peu importe comment on décide de l'appeler, pour moi c'est un moyen, c'est comme les outils qu'on utilise, comme l'électronique, en fait c'est des moyens et c'est pas pour moi une finalité de faire des sons, c'est plus pour essayer de rendre compte d'une expérience qui passe par le sonore du monde. Et il me semble que toute la musique qu'on fait, elle peut amener à se poser des questions sur tous les sons qui nous environnent, qui nous entourent, et du coup, ça peut permettre aussi de cultiver une certaine attention à toute la biodiversité qui nous entoure. Ça me semble important.
Surtout dans les temps qui courent. Une collaboration qui va se réitérer, vous avez des projets?
Avec plaisir.
Ben, on espère. Hein. Là, on n'a même pas traversé le gué, là encore. On est sur les plâtres de notre première marche. On voit si le premier caillou tient. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre le second, quoi.
Oui, voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire fonctionner ce principe-là pour pouvoir le proposer dans d'autres lieux à l'avenir.
Et l'enrichir. Au passage, des sons de l'espace qui peut nous accueillir, comme l'espérance quand même de faire ici, pour parler de Saint-Amancé un peu, et de remercier du coup les organisateurs. Martison, puis toute l'équipe qui est autour de lui, là, qui est très chouette, quoi. Et on est là depuis trois jours.
Ouais.
Troisième jour, là. Et franchement, c'est super, quoi, de pouvoir être dans la dynamique de travail de tout le monde, du festival qui se prépare. Et aussi, on se disait, de la rencontre formidable des singularités locales, j'allais dire,
ouais.
qu'on rencontre depuis trois jours. Alors évidemment, c'est des gens qui sont On a le privilège, je dirais quelque part, d'être toujours dans des espaces comme ça où les gens qui organisent ou qui font sont souvent investis, sont souvent des gens très riches, quoique leur parcours soit aussi riche. Donc on a le plaisir de les rencontrer tous sous la main en 3 jours, en fait. Quoi. Si on était venu tout seul sans connaître, on ne les aurait pas vus.
Non, c'est vrai que c'est une sacrée chance d'avoir accès à une église comme ça. On a la clé, on a pu rester toute la nuit comme on voulait, puis d'être accueilli par des gens aussi, aussi bienveillants et accueillants. Quoi. C'est vrai que c'est une chance, ouais.
C'est important à dire, parce que c'est et en même temps le fait de vivre dans les villes. Ce que je trouve important, parce que pour moi c'est politiquement aussi important à dire par rapport à la création artistique et à l'art en général. Le fait quand même de résider, de faire une espèce de mini-résidence finalement, ouais, de 3-4 jours dans un lieu, ben, quand on a rencontré plein de gens, puis quand on passe dans le village, on voit les gens, on dit bonjour, qu'est-ce qu'on fait, on part, déjà viennent nous voir à l'église. La personne qui fait le ménage vient, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est quand même vachement bien ça. Ça nourrit, parce qu'on ne fait pas les choses pareilles. On ne vient pas parachuter un propos.
Et c'est ça, ouais. Moi ça ne m'intéresserait pas de parachuter un propos. C'est vice-versa, quoi. On rencontre des gens, c'est ça qui est beau.
On sait de faire partager ce qu'on est en train de faire, là.
Et puis c'est marrant, surtout, aussi. Franchement, on se marre bien.
Ah, on se marre bien. On se marre bien, moi, de bon coup, tout ça, en fait, c'est bien.
Et c'est important de se marier.
Oui, c'est important de se marier. Ouais. Bouger le monde. Et donc, on essaie de faire bouger par l'oreille. Et comme le bouche à oreille, ça marche pas mal dans l'histoire. Hein. Donc on a quelques chances de s'en sortir. Voilà, le mot de la fin.
Mémodio, une mémoire sonore.